quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 5 minutes, c'est l'heure du Canu Info, et ce soir, on va parler de...
La guerre des cagnottes qui fait rage en ce moment sur Internet.
Ensuite, on va parler d'Edouard Philippe qui veut protéger la liberté de manifester en interdisant à peu près tout.
Et puis, écoutez, vu le pays dans lequel on vit, où il se passe pas que des mouvements sociaux, où il y a aussi toutes sortes de gens qui voudraient bien essayer de venir un peu par ici et qui sont toujours extrêmement bienvenus, et ben on aura une très longue rubrique, il faut que ça se sache, avec des condamnations et des procès à venir du côté de Briançon.
Ensuite, on parlera de cette ONG Sea-Watch qui navigue en Méditerranée pour sauver les gens en perdition.
Un petit discours pour commencer l'année 2019.
Ensuite, on ira faire un tour du côté des centres de rétention où il semblerait que ça se chauffe.
Et puis l'Amphiz est menacé d'expulsion.
Canu Info. Et alors, pour commencer l'année, je voudrais lire un extrait du discours prononcé par l'écrivain anglo-égyptien Omar Robert Hamilton le 24 octobre 2018 à l'Institut du Monde Arabe lors de sa réception du prix de la littérature arabe 2018 qui lui a été attribué pour le livre « La ville gagne toujours ». Donc, je cite cet auteur. Aujourd'hui, Sisi est glorifié par la communauté internationale. Son régime est financé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il a noué une alliance stratégique avec la Russie en lui achetant des armes et un programme nucléaire, et obtenu une couverture politique de la France et de l'Allemagne en leur achetant des armes et des centrales électriques. Nous sommes maintenant imbriqués dans la politique mondiale et nous avons retrouvé des rapports de type colonial, aussi dynamique et contraignant qu'avant la décolonisation. La France est depuis longtemps un fournisseur d'armes de l'Égypte. Les véhicules Sherpa de Renault ont joué un rôle déterminant dans le massacre de Rabia. Et depuis le massacre, aucun pays n'a vu ses ventes d'armes augmenter aussi rapidement que celles de la France. En fait, l'Égypte achète maintenant plus d'armes à la France qu'aux États-Unis. Il s'agit là d'une violation directe du droit communautaire de l'Union européenne qui impose aux États membres de, je cite, « refuser une licence d'exportation s'il existe un risque évident que la technologie ou l'équipement militaire à exporter puisse être utilisé à des fins de répression interne ». Rien de nouveau malheureusement dans cette hypocrisie. Elle s'inscrit dans la continuité du double langage qui a toujours existé entre colonisateurs et colonisés. Les prétextes sont la création d'emplois, la guerre contre le terrorisme et la quête sans fin de stabilité. L'histoire n'est pas une succession de défaites ou de victoires. C'est une rivière qui enfle et qui serpente. Une avalanche qui vous rattrape soudainement et vous ensevelit. Ou un marais dans lequel on perd son chemin. La bataille pour la démocratie en Égypte est la même que la bataille pour la démocratie en France. Nous devons tous faire face ensemble à cette crise et inventer une nouvelle démocratie, libérée du marché et des frontières impériales. Tel est le défi, et c'est ainsi que nous retrouverons une raison d'agir.
La crémière m'a dit que le colonel était parti ce matin jusqu'à lundi chez sa filleule. La maison est vide, c'est le moment d'en profiter.
Ah oui, mais on ne sait pas, peut-être qu'il a changé d'avis. S'il avait changé d'avis, il répondrait.
Ça fait 3 fois que j'appelle depuis 9h. Oh, dis plutôt que t'as les fouets.
Alors, on va parler de cette guerre des cagnottes qui fait rage en ce moment sur Internet, dans les médias, un petit peu partout. Une guerre, bon, on va pas non plus s'étendre à fond dessus, mais si jamais il y en a qui ont oublié d'allumer Twitter ou leur radio pendant les dernières 24 heures, franchement, ça vaut le coup d'un petit coup de rattrapage, parce qu'alors vraiment, on rigole, quoi. Il est souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. Ça, wow. C'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui s'indigne de la cagnotte qui avait été mise en place, alors celle-là, lundi matin. C'est la première des cagnottes, celle qui déclenche la guerre des cagnottes. Cagnotte qui a été mise en place pour soutenir ce gars qui s'appelle Christophe Dettinger, qui est connu pour être un boxeur, enfin qui est connu depuis lundi, hein. Un boxeur qui, dans une manif de gilets jaunes, a mis une paire de droites à un flic ou à deux flics, je crois.
À deux.
Et voilà, il a été filmé, il a été recherché, et puis finalement, il est allé lui-même se rendre au commissariat. Il est resté un moment en garde à vue. Il va être condamné, on ne sait pas, en tout cas, il va être condamné bien.
En quelques heures, c'est un peu devenu le symbole des violences sur la police, quoi.
C'est ça. Mais du coup, un certain nombre de gens, aussi du fait que c'était devenu un symbole, ont eu envie de le soutenir, des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont envie de soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Et donc a été mis en place, semble-t-il, par des gens qui se revendiquent comme étant de sa famille, une cagnotte de soutien sur Internet, sur un site qui s'appelle Litchi, qui est un site lié à une banque, je ne me rappelle plus laquelle. Mais en tout cas, qui est un site qui est fait pour ça, un site sur lequel on peut faire ce qu'on appelle du crowdfunding.
Et c'est vrai que par exemple, Litchi, c'est quand même plus souvent, peut-être je me gourre, mais à la différence de Kickstarter où c'est plus des espèces de projets un peu à tendance, vous voyez, monter sa société ou monter un produit, enfin pour vendre un produit quoi. Litchi, c'est souvent plus orienté, alors peut-être ça appartient à une crapulerie de banque, hein, mais. Plus orienté soutien, association, nanana. Oui.
C'était l'idée de lui permettre de payer ses frais de justice et pourquoi pas, au départ, en tout cas, l'idée de lui permettre de payer une éventuelle amende.
Qu'il ne faut pas revendiquer publiquement.
C'est ça. Mais alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette cagnotte s'est envolé. C'est qu'en quelques heures, cette cagnotte a eu 1000, 2000, 10 000, 50 000, 100 000, jusqu'à 120 000 euros. Mardi matin, au bout de 24 heures, les gens ont adoré donner pour le bonhomme qui tapait les flics.
Et ça,
c'est très très mal passé. C'est très très mal passé auprès des syndicats de flics. C'est une prime aux casseurs de flics, blabla, ça c'est le syndicat Alliance. C'est très très mal passé auprès du gouvernement. C'est très très mal passé auprès de tous les gens qui n'aiment pas qu'on tape les flics finalement. Et donc 120 000 euros, c'est la somme maximale qu'on a su, mais mardi matin, à un moment, le montant a cessé d'être public, donc on n'a pas su jusqu'où la cagnotte est montée. Et puis quelques heures après, de toute façon, la plateforme, donc Litchi, a fermé le compte. Mais alors, tout ça, attention, au milieu des polémiques, et des polémiques à n'en plus finir, avec des déclarations par-ci, des déclarations par-là, les gilets jaunes par-ci, le gouvernement par-là, Florian Philippot qui parle, Mélenchon qui parle, machin qui parle, tous les républicains les uns après les autres. Tout le monde a donné son avis sur cette histoire.
Tout le monde, tous les gens qui sont peu écoutés finalement par les gens qui sont dans la rue en ce moment, au final.
Ça, c'est clair, mais quand même, avec lesquels il y a un petit peu moyen de rigoler, puisque donc, alors... Marlène Schiappa, elle a été un peu aussi là une des petites stars de cette polémique, puisque elle a vraiment dit que en gros comme les gens donnent par internet, il y a toujours moyen de tracer, et donc là elle voulait retrouver tous les gens qui avaient donné pour Elle reste un peu dans le flou sur savoir s'il faudra tous les poursuivre et les envoyer en prison.
Juridiquement, elle a pas l'air hyper OP, quoi.
Juridiquement, elle est pas hyper OP. Mais en tout cas, elle parle de complicité. C'est quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, un policier qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Et donc là, elle voulait qu'on fasse une sorte de fichier pour les gens qui avaient donné à la cagnotte. Bon, quand même là, énorme tollé un peu de partout. Elle a vraiment exagéré. Juste légalement, c'est pas possible de filer ses noms. Hein, la CNIL sert pas à grand chose, mais quand même, là, c'est vraiment vraiment trop n'importe quoi.
Ça remettrait un peu en plus en cause l'existence de ce type de genre de site.
Mais carrément. Et puis par exemple, alors il y a un journaliste et avocat, Charles Consigny, qui a demandé à Marlène Schiappa de réviser la notion de complicité. Enfin vraiment, elle était complètement à côté de la plaque. Et là, attention, Florian Philippot, on voit, hein, démissionnaire du Front National pour aller fonder un autre groupe politique qui s'appelle Les Patriotes. Florian Philippot a parlé à propos de Marlène Schiappa de dérive fascisante. Et ben oui. Et on peut dire qu'il a une certaine expertise. Donc voilà, il sait de quoi il parle. On est bien là-dedans.
C'est vrai qu'elle s'était quand même largement moins indignée, voire pas du tout, hein, si je ne me trompe pas, quand le groupe Génération Identitaire avait lancé une grosse cagnotte pour récolter des thunes, pour faire des maraudes en Méditerranée, pour donc où l'a pas sauvé les migrants, mais pour les repousser.
Pour les taper dessus à coups de rame, voilà. Si, pendant qu'ils se noyaient. Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, cette première cagnotte lancée lundi matin, fermée mardi matin. Et là, dans la foulée, le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, lui, mardi matin, lance une cagnotte pour les policiers blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et là, à ce moment-là, du coup, la guerre des cagnottes commence vraiment.
Du coup, est-ce que c'est à qui va donner le plus?
Eh ben oui, tout à fait, c'est à qui va donner le plus. Mais alors là, attention, bon, d'une part, cette cagnotte-là a quand même l'avantage du fait que personne, en tout cas personne chez les gens un peu puissants et potentiellement décideurs, ne la conteste, donc elle peut rester en ligne. Mais même sans ça, en réalité, elle fait plus. Et du coup, alors qu'elle a déjà dépassé 170 000 euros, mais c'est vrai que les gens ont donné plus et plus vite que pour la cagnotte pour, je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe Dettinger.
C'est une histoire d'honneur, là.
Mais c'est ça. C'est ça. Alors, la première réaction, ça pourrait être de se dire, bon, tout le monde déteste quand même pas tout à fait la police. Finalement, c'est la police qui gagne sur cette guerre des cagnottes. Oui, mais au moment où la guerre des cagnottes est lancée. C'est-à-dire que quand même, en réalité, pour comprendre ce qui se passe, ça vaut un peu le coup de se dire que, dans un premier temps, sur la première cagnotte, les gens qui donnent, c'est les gens qui, en gros... veulent aider quelqu'un contre la répression et quelqu'un effectivement qui a tapé des flics, mais il y a pas autre chose que ça. Alors que la deuxième cagnotte, c'est une sorte de machin d'honneur, c'est vraiment ce truc qui est fait dans ce contexte de qui va mettre le plus de thunes pour montrer qu'il est le plus populaire, etc. C'est dans ce contexte qu'ils arrivent à recueillir, alors au dernier chiffre que j'ai réussi à trouver, bon peut-être maintenant c'est un petit peu plus, mais on en était à 170 000 euros. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a 150 000 flics, effectifs de la police nationale, en comptant un peu tout le monde. Hein.
Et mais ils sont payés, eux.
Eux, ils sont payés, d'une part, effectivement. Et c'est pas complètement neutre dans un contexte où, en réalité, dans les gens qui soutiennent les Gilets jaunes, il y a quand même plein de gens qui sont en galère de thunes. Alors que les flics, a priori, sont pas trop en galère de thunes. Mais ensuite, ça veut dire que bon, bah, s'ils ont donné chacun à peine plus de 1 euro, chaque flic, dans ce contexte où vraiment les réflexes corporatistes jouent à fond, quoi. Dans ce contexte-là, s'ils ont donné chacun à peine plus de 1 euro, ils ont déjà atteint les 170 000 euros. Sans même qu'il y ait besoin que d'autres gens qui ne soient pas flics donnent de l'argent. Hein. C'est-à-dire que finalement, cette cagnotte-là, dans le contexte, a quand même l'air un petit peu minable. L'un dans l'autre.
Est-ce qu'il y en a qui ont donné aux deux?
Il y a certainement des gens qui ont donné
les fichiers.
Mais alors, attends, parce que là, on n'a pas fini. Pour conclure la guerre des cagnottes, là, on avait le challenger numéro 1, le challenger numéro 2, mais maintenant, on a aussi les outsiders. Et là, on compte la cagnotte lancée par Éric Drouet, une sorte de chef de file des Gilets jaunes, un peu complotiste par là, un peu faf par-ci. Bon, Éric Drouet, lui, il lance une cagnotte pour les Gilets jaunes blessés. Bon, pour l'instant, il est loin des scores des autres, hein, mais va savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. On compte une cagnotte lancée pour que, ouvrez les guillemets, Marlène Schiappa ferme sa gueule. Sur laquelle, tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait déjà 1000 euros quand même. Mais alors ça, on ne sait pas exactement, est-ce que ça va être lui donner 1000 euros en lui priant de fermer sa gueule. Tout n'est pas encore complètement certain.
Est-ce que c'est la fin du crowdfunding? Tous les sites vont être interdits, finalement.
Et puis, un autre flic, un ancien du RAID, qui a aussi, lui, lancé sa cagnotte pour... Alors lui... Visiblement, c'est pas hyper net, mais quand même, on dirait que d'après les textes qui l'accompagnent, qui sont un peu obscurs, on dirait que lui, sa cagnotte va servir surtout à aider les flics qui auraient des soucis potentiellement avec leur hiérarchie, avec la justice, quoi, parce qu'ils se seraient vraiment trop lâchés. Bah, dans le contexte où on est vraiment trop lâchés, ça veut quand même dire vraisemblablement tuer plusieurs personnes. Hein, parce qu'on sait que les flics qui ont tué une petite mamie à Marseille, a priori, pour l'instant, ils n'ont aucune sorte de soucis. Hein. Donc, tuer une personne, ça suffit pas. Là, ce sera vraiment pour les flics qui en auraient tué plusieurs. Donc voilà, maintenant, c'est qui va faire le plus de cagnottes.
Et quand même, pour dire, quand même, dans toute cette histoire, quand même, dans tout ce mouvement, le gouvernement, à chaque fois, il a quand même pas trop de balles. Parce que bon, ça, c'est sûr, on en parle à bloc. Mais quand même, ça tombe forcément. Donc là, c'était un peu le symbole. Les médias nous ont un peu bassinés avec, en nous balançant ces vidéos-là, machin. Mais sauf que, au même moment, quand même, tombe le coup du brigadier, ou de, en tout cas, de l'agent de police de Toulon, qui a été promu à la Légion d'honneur, mais sauf que le lendemain d'avoir été promu à la Légion d'honneur, eh ben il a quand même été, il y a quand même deux vidéos qui sont sorties où on le voit éclater des manifestants, mais genre vous voyez pas. Enfin, je veux dire, ça excuse rien, mais vous voyez, c'est même pas dans un moment...
C'est pas dans une échauffourée.
Voilà, c'est pas dans une échauffourée ou comme ça, hop, comme on a vu plein d'images en ce moment, hop, les gens en pleine manif, hyper chaude, des flics se lâchent. Non, là, plutôt, il y a un type qui est là, entouré d'autres flics. Enfin, je veux dire, le gars maîtrisé, pas rien du tout. Et puis le mec s'approche, il lui met quatre droites en plein visage. Voilà, ça, une autre vidéo, bon, bref... Tout genre de truc sort. En général, voilà, ça hiérarchie le couvre en disant oui, mais vous connaissez pas le contexte, les vidéos montrent pas le contexte, machin. Il avait un tesson de bouteille, blablabla. Lui argumente là-dessus. Sauf que, en fait, même ses collègues se lâchent, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire le type, le mec est tellement violent qu'il a quand même eu une inspection de l'IGPN, donc la police des polices, quoi. Parce qu'il avait mis un coup de coude dans le nez à son collègue. Je veux dire, c'était même pas un type bourré en garde à vue. Hein. Je veux dire, c'est quand même à ses collègues. Et lui, s'était défendu en disant, ah, le coup de coude, c'était pas pour lui, c'était pour le quasi à côté. Bon, voilà. Et donc, plein de témoignages. Je veux dire, c'est quand même pas souvent que les flics se lâchent et balancent sur leurs collègues. Et là, dans la presse, c'est genre... C'est la folie, quoi. Ils disent tous non mais c'est vrai qu'il était violent, il est pas maîtrisable, il est juste couvert par sa hiérarchie parce que, genre, il est efficace. Ce qui veut... dire ce que ça veut dire, et qu'il arrive à ramener des trucs machin, mais c'est un élément mais complètement voilà, c'est un espèce d'électron complètement qui fait n'importe quoi. Bref, voilà, du coup à chaque fois quand même c'est souvent contrebalancé ces trucs là
et bon. Tout ça quand même au moment où les violences des flics quand même enfin il y a eu plusieurs étapes dans les dernières années de montée de la légitimité du fait de parler des violences des flics, mais là en ce moment on est quand même à des étapes jamais atteintes, hein. C'est-à-dire que vraiment n'importe quel commentateur peut à un moment ou à un autre mentionner le fait que les flics font vraiment régner l'ordre n'importe comment, en se lâchant vraiment de manière un peu dingue, quoi.
Et en tout cas sur la couverture médiatique des violences policières, il y a Acrimed qui a sorti un truc, je vous invite à aller voir sur le site Acrimed, et qui dénonce un peu le fait que les médias ont très peu, voire pas parlé du tout d'un rapport d'Amnesty International qui a recensé, qui dénonce les violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et qui, voilà, recense de manière sérieuse comme c'est le faire Amnesty International. Et voilà, du coup, il... et donc Acrimed dit, mais en fait, on n'en a pas parlé, il y a juste Check News, là, l'espèce de rubrique décodeur de Libération, qui a été interrogé sur le sujet, qui a dit si, si, nous on en a parlé dans 3 articles, vu les proportions de la violence policière, vu Acrimed trouve que c'est quand même un peu léger. Et il souligne un peu de manière rigolote d'aller se rendre sur le site du Monde et d'aller aller à la rubrique violence policière et de voir qu'il y a à peu près, je crois, 2 articles par an.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et c'est dans ce contexte que Édouard Philippe nous a annoncé avant-hier soir sa nouvelle loi anti-casseurs, enfin sa loi anti-casseurs en préparation. Et là,
on est content par exemple que Gérard Collomb soit plus ministre à l'intérieur à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai. Non mais là on est vraiment de plus en plus dans des sortes de délires où le Premier ministre n'a pas honte quand même d'expliquer qu'il défend la liberté de manifester. Alors la rhétorique voulant que la liberté de manifester soit menacée non pas par la police qui tire avec des armes extrêmement dangereuses, qui blesse, qui mutile, qui attaque des cortèges parfaitement pacifiques, non pas du tout par ça, mais par les manifestants violents qui viennent et qui eux attaquent la police, forçant la police à répondre. Bon, en réalité, n'importe qui allait dans une manif, au moins depuis les manifs contre la loi travail, sait que c'est la police qui fixe le niveau de violence des manifestations. Je veux dire, à de très rares exceptions près, c'est le fait que les flics soient là, le fait qu'ils soient visibles à des moments, et le fait qu'ils attaquent les manifestations tout bêtement. Et c'est vraiment eux qui décident de si la manif va être pas violente, un peu violente ou très violente. C'est quand même... Il y a des exceptions, mais c'est quand même vraiment extrêmement massivement ça. Bon, c'est donc dans ce contexte que Édouard Philippe, voulant protéger la liberté de manifestation, nous annonce une loi. Alors une loi qui en réalité reprend un projet de loi qui avait été proposé par les Républicains, qui avait été proposé quand ? Qui avait été proposé au mois d'octobre. Et les Républicains, là, avaient travaillé suite... alors, c'était pas du tout... Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore commencé, mais c'était suite aux manifestations du 1er mai dernier, à Paris en particulier, où il y avait eu un paquet de trucs pétés, etc. Et donc là, voilà, ils avaient proposé toute une série de mesures dont on s'était rendu compte assez rapidement que quand même le Conseil constitutionnel allait pas vraiment les laisser passer. Là-dessus, ils les ont retravaillées. Et là maintenant, du coup les Républicains d'un côté, une commission blabla, un truc de l'Assemblée nationale, et donc Édouard Philippe est maintenant au bon moment en mesure de nous proposer une nouvelle loi dont il espère, lui, qu'elle passera devant le Conseil constitutionnel, alors que quand même, ça va être moche. Donc, en résumé, dans les mesures principales dans cette histoire, on a alors un durcissement des sanctions qui existent déjà pour les manifestants qui dissimulent leur visage. Mais ça, ça veut quand même dire que quand bien même vous êtes parfaitement pacifique, vous vous retrouvez dans une manifestation où il y a de la lacrymo, vous mettez un foulard devant votre visage pour essayer d'en respirer un peu moins. C'est-à-dire que se retrouver dans une manifestation où il y a de la lacrymo, pareil, on le sait depuis la loi travail, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, même quelqu'un qui se dit « dès que ça chauffe, je pars de la manif », en réalité... Il peut n'y avoir aucun avertissement au fait que tout d'un coup une grenade lacrymo explose à vos pieds. Donc à ce moment-là, vous sortez un foulard, vous le mettez dans le nez, vous êtes en train de dissimuler votre visage.
À tout moment.
Ah. Donc voilà, premièrement, durcissement des sanctions pour les manifestants qui dissimulent leur visage. Deuxièmement, durcissement des sanctions pour les organisateurs de manifestations non déclarées. Et là, même sanction pour les participants à des manifestations non déclarées. En réalité, jusqu'à maintenant, déclarer une manifestation, c'est pas si entièrement obligatoire que ça. Il y a des tonnes de manifestations qui se font tous les ans. Je veux dire, il y en a vraiment chaque semaine plusieurs en France de manifestations qui se font sans être déclarées. Et pour l'instant, c'est plutôt à l'initiative de la préfecture, si elle est au courant d'une manifestation qu'elle juge à risque, de l'interdire de manière explicite. Bon, si cette loi passe, après, ça sera vraiment autre chose. Et puis, un nouveau fichier, le fichier des manifestants violents. Et donc, ceux-là seront interdits de manifestation. avec potentiellement, alors c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur ce fichier, sur des bases qu'on sait pas exact, dont on ne sait pas exactement ce qu'elles seront, mais potentiellement des bases de rapport de RG, des bases qui pourront être plus ou moins fantaisistes, puisque bien sûr, en tout cas pour l'instant de ce qu'on comprend et de ce qu'on sait du projet de loi, il y aura aucun jugement qui pourra vous mettre sur cette liste. Hein. Ça sera vraiment un flic prétendra que vous êtes un manifestant violent, une manifestante violente, ça suffira pour vous mettre sur ce fichier. Et donc à ce moment-là, potentiellement, vous pourrez à chaque fois qu'il y a une manifestation être contraint de venir pointer au commissariat pendant la manifestation. Pour être sûr que vous n'y allez pas. Bon, autant dire que du coup, pour des gens qui seront juste soupçonnés par un flic lambda qui remplit un rapport, ça pourrait être relativement lourd dans leur vie. Mais pareil, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ça sera pour chaque manifestation, pour des types particuliers de manifestations, etc., etc. Pour l'instant, ce projet de loi reste encore relativement flou.
Et alors, parce que je t'écoutais que d'une oreille, mais est-ce que tu as quand même précisé que le fichier, ce fichier des casseurs existe déjà ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a alors il y a un fichier similaire qui est le fichier pour les interdits de stade par exemple, où ça recense les hooligans et du coup pour les violences qui sont commises aux alentours des stades. Mais il y a aussi le fichier, alors j'ai pas son nom en tête, j'étais en train de le chercher mais j'ai pas trouvé, des violences urbaines et dedans il y a c'est un fichier police qui existe depuis longtemps, et il y a donc les personnes qui sont auteurs de violences urbaines, donc violences urbaines souvent ça veut dire émeutes de banlieue, mais également les gens qui sont catégorisés d'ultra droite ou d'ultra gauche qui ont participé à des émeutes et qui ont fait plus qui participaient, voilà. Donc ce truc là existe et on sait pas pourquoi du coup ils veulent inventer ce truc, enfin si on sait pourquoi, pour faire monter une mayonnaise médiatique quoi.
Et du coup ce fichier pourra même être tellement élargi que pareil hein, pour l'instant on est sûr de rien, mais il y a un avocat par exemple qui s'appelle Serge Slama qui lui pense que peut-être que ce fichier pourrait aller jusqu'à qu'on pourrait mettre dans ce fichier des gens qui fréquenteraient des personnes qui auraient commis des actes de violence dans les manifestations. C'est-à-dire que vous avez un pote qui s'est fait choper, ou même lui-même qui est accusé d'eux. Par ailleurs, les flics vous ont remarqué plusieurs fois avec lui, les flics, en tout cas les RG, les services de renseignement, qui font des notes blanches, c'est-à-dire toutes sortes de petits rapports, quoi. Et là, si votre nom apparaît, peut-être que vous pourrez vous retrouver sur ce fichier. C'est ça, ce que je voulais encore dire là-dessus, c'est que on a beaucoup parlé, et Édouard Philippe lui-même, hein, de la similarité entre ces mesures qu'il propose et les mesures qui existent déjà pour les gens qui sont interdits de stade. C'est-à-dire que des gens qui sont connus pour être des hooligans, qui vont au stade pour se bastonner, peuvent maintenant, depuis un paquet de temps déjà, peuvent être interdits d'aller au stade. Alors, bien sûr, il le fait comme si c'était une évidence de passer de l'interdiction de stade à l'interdiction de manifester. Il y a quand même une petite différence en termes politiques, tout bêtement. C'est-à-dire qu'aller au stade, c'est une activité ludique. Les gens peuvent y tenir un peu, peuvent y tenir beaucoup, c'est une chose. Après, la liberté de manifester, constitutionnellement, c'est ce qu'on appelle un droit fondamental. C'est-à-dire que ça, c'est quand même autre chose que le fait d'aller soutenir une équipe de blaireaux qui...
Tu dis ça parce que t'aimes pas le foot. C'est vrai que même si t'aimes le foot, il y a vraiment une différence. Quoi.
Même si t'aimes le foot, il y a vraiment une différence. Qui effectivement n'est pas bon. Alors voilà, on est quand même dans un processus où déjà de fait, disons plus ou moins depuis la loi travail, on sait que si on va à une manifestation, on peut jamais être sûr d'être en sécurité. Qu'il y a vraiment une agressivité de la police face aux manifestations qui grandit et qui grandit d'année en année. Et là, maintenant, c'est les peines qu'on peut encourir pour tout et n'importe quoi qui grandissent aussi. En fait, on va vraiment vers un truc où aller en manifestation, ça sera un acte de guerre, quoi. Enfin, ou en tout cas, ça sera vraiment s'exposer à une série de conséquences un peu gigantesques. Alors, comment ça va se passer ? Enfin, voilà, tout ça pose un paquet de questions sur la suite de la vie politique et de la vie contestataire dans ce pays, dans le monde.
Mais c'est vrai qu'en même temps, on voit que Pour avoir lu la vite fait, il y a eu des comptes rendus dans les journaux de la dernière AG qui a eu lieu place Guichard, là, de l'AG des Gilets jaunes qui devait tenir à la Bourse du Travail. Mais du coup, dans les comptes rendus, ce qu'on voit, c'est quand même assez massivement dans toute la diversité des gens et diversité un peu politique des gens qui pouvaient être présents sur place. Il y a quand même un truc qui est de l'ordre de en fait, malgré cette loi, en fait, on va pas aller déclarer nos manifestations. Parce que j'imagine franchement il y a tout un tas de raisons qui fait que les gens vont pas faire ça. J'imagine assez facilement que dans un premier temps c'était pas forcément des gens qui avaient pour habitude de. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas des gens qui étaient organisés dans des trucs d'organisation syndicale. En tout cas, elles étaient pas là. Du coup, c'est pas des gens qui vont forcément avoir le réflexe de déposer en préfecture. Voilà, de fait, ça se fait comme ça. Et ben en tout cas, la pression que met le gouvernement là-dessus, ça a pas l'air de les atteindre.
Alors après, ce que les Gilets jaunes disent aujourd'hui, c'est une chose. De toute façon, la loi n'est pas encore passée. Au mieux, ça sera pour la fin du printemps. Ça veut aussi dire que, voilà, on ne sait pas où en sera le mouvement des Gilets jaunes à ce moment-là, bien sûr. Disons que s'il existe encore, je pense qu'on sera à un niveau de confrontation qui aura encore changé. Mais ça ne les concerne pas forcément directement en tant que mouvement des Gilets jaunes. Après, ça les concerne et ça nous concerne. Et ça concerne tous les gens qui peuvent à un moment... avoir des raisons de descendre dans la rue, que ça soit de manière pacifique ou moins, mais même si c'est de manière pacifique.
C'est ça, parce que après, en général, manifestations non déclarées, c'est aussi et souvent des manifestations spontanées, comme on a pu en connaître, par exemple, pour la mort de Rémi Fraisse, où c'était impensable d'attendre 3 jours une déclaration en préfecture. Bref, ça fait quand même tout un tas de trucs comme ça. Et aussi des trucs sur ces comptes rendus de résultats d'AG, où par exemple, il était hors de question de condamner les casseurs, par exemple. Ce qui est quand même plutôt classe.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Papier. Il est sans papier. C'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Ah pardon, c'est à moi de commencer. Alors, eh bien, on va parler des 7 de Briançon. Alors, on va rappeler très brièvement ce qu'on a quand même souvent parlé. Printemps dernier, le 21 avril, une bande de petits fachos plein aux as décide de faire une opération de communication à la frontière franco-italienne. Vers Briançon, ouais, c'est mon micro et du coup je le tiens à la main et j'ai un peu l'air d'être un rappeur, mais c'est pas grave. Voilà, alors en tout cas cette opération de communication se situe vers Briançon, qui est une route pour les exilés. Pour l'opération ils sortent des grosses banderoles, un 4x4, un ou deux hélicos, j'ai pas réussi à savoir. Voilà. Bon, bah juste de l'autre côté de la frontière, du coup côté italien, mais également plus de nos côtés au niveau de nos amis, on ne compte pas en rester là et environ 200 personnes solidaires et des migrants décident de passer la frontière ensemble. Bon, alors, vous le savez, les premiers ne seront pas inquiétés du tout par la police, mais les seconds, oui. Une fois la manif arrivée en ville, donc là on parle plutôt du côté des amis solidaires des migrants et des migrants. Une fois la manif arrivée en ville, les flics prennent en chasse les militants, en chopent 3 dans un premier temps, ils seront placés en détention préventive au Beaumet pour 9 jours. Le lendemain, le préfet fait arrêter 4 autres militants pour, je cite, « aide directe ou indirecte en bande organisée ». Et à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire national. Pardon, c'est les trucs un peu pompeux. Le procès a eu lieu le 8 novembre et le verdict est tombé. 5 d'entre eux ont été condamnés à 6 mois avec sursis pour aide à l'entrée irrégulière d'un étranger en France. Et les 2 autres à 12 mois de prison, dont 4 fermes. Dans les deux, il y en a l'un, c'est pour avoir levé son t-shirt face au tir de grenade lacrymogène, et le second, c'est pour réveillon lors de son interpellation du coup le lendemain dans un bar où il s'est fait traîner face contre terre. Il avait également écopé de 10 jours d'ITT hein, suite à cette interpellation. Le tribunal valide donc la politique migratoire en prononçant des peines de prison pour délit de solidarité. Voilà, chose qui est quand même assez. Il y a eu le très médiatisé procès de Cédric Herrou. Du coup, il y a eu des appels en cassation, machin. Là, leurs avocats vont aussi faire appel. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais voilà, donc au final, pour Cédric Herrou, là où la. Où ça a été très médiatisé, ça avait été, les peines avaient été abandonnées, je crois, ou très très minimisées.
Oui, parce qu'il y avait une question prioritaire de constitutionnalité sur globalement le délit de solidarité et sur la base de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, on avait considéré que Cédric Herrou, qui avait hébergé des gens, qui les avait nourris, mais qui les avait pas aidés à traverser une frontière, avait le droit de se livrer à de la fraternité.
C'est ça. Et du coup, par exemple, dans toute cette histoire-là, par rapport au 7 de Briançon, le préfet avait été, les avocats avaient fait jouer cette question prioritaire de constitutionnalité en disant, notamment quand ils étaient au Baumettre, là, attendez avant de vous prononcer, au moins, on va étudier cette question prioritaire de constitutionnalité. Le préfet je sais pas de quel autre, bref, du coin, il tremblait un peu en disant bon putain si c'est mauvais pour nous, mais effectivement du coup les juges avaient mis la nuance, je pense s'entend bien qu'il y avait cette histoire là qui arrivait, avaient mis la nuance que le passage de frontière ne rentrait pas dans cette je sais pas comment dire là, dans cette petite
dans la catégorie de la fraternité. La fraternité, voilà, vous permet d'héberger ou de nourrir des gens qui dorment dehors ou qui ont faim, mais pas de leur faire traverser des frontières.
C'est ça. Bon, du côté de Briançon, en tout cas, tout ça ne s'arrange pas. Deux autres habitants de Briançon sont convoqués devant la justice le 10 et le en mars, pardon, j'ai mal écrit sur mon ordinateur. Courant mars, je crois le 13 mars. Tous deux sont des maraudeurs et sont également poursuivis pour délit de solidarité. À noter tout de même que les gens sur place s'inquiètent grandement du retentissement de ces mesures-là et ils précisent quand même que après l'année dernière, là, quand il y avait eu les premières fontes de glace, il y avait quand même eu 7 corps qui avaient été retrouvés dans le coin.
Et là, quand on parle de maraudeurs, ça veut dire c'est des gens qui sillonnent un peu la montagne pour trouver les gens qui, n'ayant aucune expérience de la montagne, sont potentiellement, parce qu'ils sont obligés de passer la frontière là pour essayer d'éviter les flics, sont potentiellement en train de mourir en montagne.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Et ça chauffe dans les centres de rétention, dans plusieurs en tout cas. Le 27 décembre, des prisonniers du centre de rétention de Oisel avaient décidé d'écrire un texte collectif dénonçant leurs conditions d'enfermement et expliquant leurs revendications. Ce texte avait été publié par le nouveau blog qui s'appelle Abat l'écras, Abat l'enfermement, faire sortir la parole de l'intérieur et soutenir la lutte de l'extérieur. Vous pouvez le retrouver sur noblogs.org et ça s'appelle Abat l'écras, A-B-A-S-L-E-S-C-R-A, abatlecras.noblogs.org. Et du coup, tout de suite, on lit cet appel-là des retenues de Oisel.
Nous, retenus du centre administratif de Oisel. Nous sommes enfermés dans un centre qui n'est pas en état d'accueillir dignement des gens. Ici, les policiers nous cassent le moral. Ici, les 45 jours nous paraissent être 45 ans. C'est encore pire que la prison. La nourriture est encore plus immonde. Même les layouts sont mauvais ici. Le centre devrait être fermé, tellement il est en mauvais état. On en a marre de cet endroit où les actes racistes sont quotidiens. Quand on résiste, comme certains, les conséquences peuvent être 6 jours d'isolement, qui sont une véritable torture psychologique et morale. Nous revendiquons la fermeture de ce centre de rétention qui n'est plus en état d'accueillir des humains dignement. Le changement de l'équipe de policiers de jour, présente depuis trop longtemps et qui se comporte comme une mafia. La fin des violences policières au centre de rétention et pendant les déportations. La fin des condamnations inutiles à de la prison comme quand on est condamné pour avoir refusé d'aller voir le consul. Un véritable accès aux soins, respect de l'intimité des parloirs et des parloirs qui durent plus longtemps pour respecter le besoin de voir ses proches, un accès permanent à la cour, la fin de l'isolement qui est un moyen de pression à l'intérieur, c'est un endroit où on nous torture moralement et physiquement. La fin des actes racistes de l'administration ou de la police.
Donc le 9 janvier 2019, aujourd'hui, une grève de la faim dure depuis plusieurs jours dans deux bâtiments du centre de rétention de Vincennes cette fois. Et la répression s'est abattue sur eux. Donc plusieurs expulsions et des transferts vers d'autres CRA ont presque fait cesser la grève dans le bâtiment B2 de Vincennes. Par contre, la grève du bâtiment A2 à Vincennes tient bon et a même été rejointe par de nouvelles personnes au lendemain de la manifestation de solidarité de lundi soir à Paris. Donc mardi, les gens ont rejoint et lundi soir, il y avait, je crois, une soixantaine de personnes qui ont manifesté et qui sont en région parisienne. Et une autre grève de la faim, d'une ampleur encore plus grande, vient d'éclater au centre de rétention de Ménilmontant, dans le 77, près de l'aéroport Charles de Gaulle. Les retenus du bâtiment 2 ont décidé, avant le repas d'hier soir, mardi 8 janvier, de se mettre en grève de la faim pour au moins 2 jours. Une décision à quasi l'unanimité.
Nous avons appelé le centre de rétention 3 et le bâtiment des femmes a fait pareil dès demain matin. Ici, les conditions d'enfermement sont désastreuses. La nourriture est immonde. Ici, pour aller à l'infirmerie, il faut faire la queue alors qu'il fait très froid à cause de l'hiver. Ici, les infirmiers sont arrogants et généralement, ils donnent que du Doliprane. Même quand t'as quelque chose de cassé, ils te font pas de bandage. Ils ne te donnent juste de la crème. Ici, les policiers font la loi. Si tu te plains, tu vas direct à l'isolement. Ici, il y a plein de gens qui ont subi ce qu'on appelle la double peine, condamnés à de la prison et à leur sortie directement ramenés en centre de rétention. En centre de rétention, si tu refuses de donner tes empreintes ou d'aller voir le consul, tu peux prendre 135 jours de centre, presque d'affilée ou faire plusieurs mois de prison entre deux placements en centre de rétention administratif. Au bâtiment des femmes, une prisonnière a été violée par un policier avant les fêtes de fin d'année. Rien n'a été fait pour elle. À Ménilmontant, il y a souvent des vols cachés tôt le matin. Il y a l'isolement où tu peux être enfermé avant le vol. Il y a tous ces anciens retenus qui ont été renvoyés de force, casqués et scotchés. Récemment, 4 Guinéens ont été ramenés de force par une grosse escorte dans un charter à l'aéroport du Bourget. Ils sont partis chercher 5 autres Guinéens à Bordeaux et ils les ont déportés tous en Guinée. On exige la fin des vols cachés, la fin des déportations violentes et l'interdiction d'utiliser des charters pour déporter. Pendant toute la durée de rétention, on te change pas de couverture. Même en prison, c'est plus propre, c'est dire. Ici, on peut pas cantiner ou attendre en espérant avoir une activité. Il y en a pas. On en a marre du racisme quotidien de la police. Toutes ces pressions et humiliations sont là pour briser notre morale, celui des retenus. On appelle les autres retenus de France à lutter avec nous contre l'enfermement pour 3 mois juste parce qu'on est sans papier. On appelle à de la solidarité à l'extérieur. Liberté pour tous.
Donc demain jeudi 10 janvier, la solidarité continue à s'organiser à l'extérieur. Il y a un rendez-vous qui est organisé à Paris à 18h à l'Écharde, métro Robespierre au 19 rue Garibaldi. À Lyon, il y a 3 mois commençait l'occupation de l'ancien collège Maurice Sève à la Croix-Rousse par plus de 150 jeunes migrants. Et même avec un toit sur la tête, un peu d'eau et un peu d'élec, leurs conditions de vie restent très précaires. Toujours pas de chauffage ou très peu. Alors, ils continuent à en appeler à la solidarité. Donc, n'hésitez pas à aller sur place à l'ancien collège Maurice de Sèvres, amener des vêtements d'hiver, des produits de l'hiver, quoi, de la saison hiver. Des produits d'hygiène et de soins, des médicaments, de la bouffe. Et vous pouvez aussi passer par la cagnotte en ligne pour faire les achats nécessaires aux travaux et aux besoins en nourriture. Donc c'est sur eloasso.com et c'est les soutiens des mineurs isolés de la Croix-Rousse. Vous le retrouverez comme ça. Et vous pouvez également leur écrire à leur adresse mail lecollège@riseup.net.
Il faut que ça se sache.
Sinon, ce soir, c'était à 19h. Mais n'hésitez pas à y courir. Il y a la grosse réunion du collectif Jamais sans toi pour faire le point sur les hébergements. Parce que c'est jamais évident. Il y a pas mal de familles de sans-papes qui ne sont pas hébergées alors que le Grand Lyon le devrait. Et donc, c'est dans le lieu accueil de l'école Michel Servet à 19h. Et demain soir, jeudi soir à 18h, l'occupation de l'école Henri Vallon à Vaux-en-Velin. Donc n'hésitez pas à y aller, par plusieurs collectifs Jamais sans toi de différentes écoles de Vaux-en-Velin. Parce que la situation actuelle de Vaux, c'est 21 familles sans papier à la rue, dont 42 enfants. Donc, à bas les politiques contre l'immigration, contre les frontières et les centres de rétention et solidarité avec les prisonniers en lutte.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Le bateau de l'ONG Sea-Watch, alors si vous ne captez pas, l'ONG Sea-Watch, elle fait à peu près le même boulot que faisait l'Aquarius. Voilà. Alors elle a secouru durant une de ses dernières opérations en mer 32 personnes qui avaient embarqué sur un bateau pour traverser la Méditerranée et qui se sont retrouvées au bord de la noyade. Ces 32 personnes sont depuis 17 jours sur un bateau qui n'a pas la capacité de les accueillir. Oui, parce que bien sûr, l'ONG Sea-Watch dispose d'un bateau qui est assez performant pour aller en mer, qui est assez... qui a des gros moteurs, qui peut aller en mer même si, et surtout si la mer est agitée, parce que de fait les embarcations de migrants sont, on se retrouve dans la mer encore plus quand il y a la mer qui est agitée, logique. Voilà, sauf que accueillir 32 personnes, ça nécessite un minimum de d'eau potable, de plusieurs toilettes, de plusieurs douches, parce que on peut rester un ou deux jours dans des conditions pas terribles, mais quand on a été au bord de la noyade, voire noyé et sauvé, et ben en fait, c'est juste pas possible de tenir autant de temps sur un bateau comme ça. Pour qu'on se rende bien compte quand même du luxe que profitent ces gens, ils ont 30 mètres carrés à se partager. Ils sont 32, ça fait 1 mètre carré par personne. C'est vraiment petit. 1 mètre carré, on ne tient pas allongé quand même. Le bateau n'est pas équipé pour subvenir à l'hygiène de ces personnes. Bref, en gros, les gens sur place sont en très grande fragilité parce que peuvent se développer des maladies dans des conditions pareilles et les gens psychologiquement sont quand même à bout. Certaines personnes, par exemple, ont tenté de se jeter à l'eau. Voilà, par rapport pour redonner un indice, c'est-à-dire qu'ils ont été secourus, ils ont préféré. Je sais pas, peut-être crever, a priori. Depuis le 7 janvier, date à laquelle les médias ont commencé à en parler, un certain nombre d'entre eux ont cessé de s'alimenter également. Le 29 décembre, un autre bateau de l'ONG Sea Eyes, elle fait pareil que Sea-Watch, a secouru 17 personnes et se trouve dans la même situation. Ça fait donc 49 personnes que les différents gouvernements européens refusent d'accueillir sur leur territoire. Tous négocient le nombre. Moi, en gros, les négociations qui ont lieu en ce moment au niveau européen, c'est alors moi je veux bien prendre temps, mais si toi t'en prends temps, on parle pas de, je sais pas, de centaines, de milliers de réfugiés syriens qui fuient la guerre. On parle de 49 personnes qui sont au bord de nos côtes. Donc de ce côté-là, on se tire dans les pattes, hein, tous en disant « Ah, vous en avez jamais pris, ah mais nous, l'Espagne et la France, on en a pris il y a pas longtemps sur le dernier bateau, Malte qui dit « Ah, on en a marre », l'Italie qui dit « Nous, c'est toujours nous », puis en plus, de toute façon, on est d'extrême droite, alors c'est pas maintenant qu'on va en prendre, la France qui dit « Bon, on n'est pas d'extrême droite, mais bon, si on peut en prendre un ou deux pour montrer qu'on n'est pas d'extrême droite comme l'Italie ». Voilà, en gros, ce qui se passe, mais par contre, quand il s'agit de durcir la politique migratoire européenne, là, bizarrement, bon, bah on est quand même plutôt unanime. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si la position des États européens est à vomir quand les bateaux des ONG se retrouvent en rade de port d'accueil, eh bien, il faut bien s'imaginer que ces bateaux-là sont juste l'échec visible de leur politique migratoire, politique qui consiste depuis 2007 à déléguer les secours des embarcations aux gardes-côtes libyens afin qu'ils récupèrent les migrants, les ramènent dans les prisons, les tabassent, les revendent à des milices, voire les violent. Ça, c'est pour celles et ceux qu'ils n'ont pas laissé se noyer en mer. Le New York Times a sorti une vidéo en partenariat avec des ONG, une vidéo qui montre une opération des gardes-côtes libyens filmée par l'ONG Sea-Watch, justement. Opération qui date de 2017, je crois un peu moins d'un an après les accords qui ont relégué aux gardes-côtes libyens la gestion des frontières. Dans cette vidéo, on voit à minima des pratiques complètement inadaptées de secourisme des gardes-côtes libyens. Donc ça, c'est quand même au tout début, on nous dit ça comme ça un peu pour nous dire, bon, regardez, même s'ils étaient de bonne volonté, c'est catastrophique. Ils collent complètement le bateau qu'ils sont en train de secourir, ce qui a pour effet de foutre des gens sous l'eau. Ils distribuent aucun gilet de sauvetage. Les gardes-côtes libyens menacent l'ONG Sea-Watch qui arrive et elle qui balance des dizaines de... On voit la différence. En fait, quand vous regardez la vidéo, vous voyez la différence avec des gens qui arrivent avec leur gros bateau de Sea-Watch, qui arrivent en petit Zodiac, qui distribuent plein de gilets de sauvetage, qui essayent de repérer les gens les plus en difficulté. Ce qu'il faut quand même bien capter, c'est qu'en fait, la plupart des gens en fait ne savent pas nager. Donc c'est à dire qu'en fait les gens se retrouvent à l'eau, mais c'est à dire que si c'est pas ils voient un bateau, ils attendent qu'on les secoue. Non, juste les gens sont en train de couler. Du coup, ces gardes-côtes hurlent sur les migrants, les laissent pour... On comprend pas trop en fait. On les voit. Il y en a certains qui tendent la main pour les mettre sur le pont. On voit d'autres leur gueule dessus parce qu'ils essaient de monter. Bref, c'est un peu chaotique. Ceux qui sont sur le pont sont réunis là où il y a le plus de place, se prennent des coups de ceinture et se font passer à tabac par les gardes-côtes. La vidéo montre également, enfin du coup, ce que démontre l'enquête un peu là du New York Times, c'est qu'en fait, du coup, on voit le matricule de ce bateau et en fait, il le compare à une autre vidéo d'inauguration de ce bateau où en fait, c'est l'Italie qui avait fourni aux gardes-côtes libyens ce bateau pour les opérations de secourisme. C'est un bateau de guerre quand même. Voilà, en gros, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est comment l'Europe a externalisé sa gestion des frontières, qu'elle a confié cette gestion à des ordures et elle le savait clairement, que de toute façon tout ça se passe très loin de nous, très loin de nos journalistes, et que l'Europe forme, finance et équipe ses gardes-côtes. Alors, suite à cette vidéo, Global Legal Action Network et l'Association pour une étude juridique de l'immigration soutenue par des étudiants de l'école en droit de Yale ont intenté un procès au nom des 17 survivants de ce drame. Parce que du coup, il y a 17 personnes qui ont survécu, mais il y a eu un paquet de noyés quand même. Contre l'Italie, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et leur but, c'est pas seulement... parce qu'en fait, juridiquement, ils attaquent l'Italie parce que eux, ils avaient arrêté une mission. Et par exemple, il y avait aussi un hélicoptère italien qui chapeautait un peu le truc. Voilà. Mais leur but, c'est clairement de montrer la politique migratoire européenne. Ils espèrent que tous ces gens-là seront. Enfin, bref, on ne sait pas ce qu'ils espèrent. Mais voilà, on espère que ça va quand même bien fonctionner. En tout cas, je vous invite vivement à voir cette vidéo. Elle dure 15 minutes. Elle a été traduite par Courrier International. On essaiera de la mettre en lien sur notre blog.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Et l'Amphiz est menacé d'expulsion. L'Amphiz, c'est un immeuble qui est au 12 rue Baudin à Villeurbanne qui avait été réquisitionné en décembre 2017 pour héberger des exilés et qui abrite plus de 250 personnes. Donc ce bâtiment appartenait auparavant aux sapeurs-pompiers et il a été vendu cet automne pour la somme de 2 millions d'euros seulement à la métropole avec comme projet de construire un établissement scolaire. Donc deux autres bâtiments de cette parcelle sont également occupés par des exilés et sont déjà expulsables à l'heure actuelle. Ils s'opposeront toutes les personnes vivant dans les immeubles à toute décision d'expulsion de ces bâtiments sans proposition d'hébergement pérenne et inconditionnel, quelle que soit leur situation administrative vis-à-vis de leur demande d'asile. Parce qu'en fait, c'est l'État qui doit légalement héberger les demandeurs et les demandeuses d'asile et qu'il ne le fait pas ou qu'il le fait peu depuis de nombreuses années. Et en ce, si en toute illégalité, ce qu'on répète depuis des années dans ce faut que ça sache. Donc la métropole choisit une nouvelle fois la politique de l'exclusion à l'écart de populations migrantes déjà fragilisées par des conditions de vie précaires et toujours plus menacées dans leur droit à la liberté de circulation et d'installation par la loi Asile et Immigration de GG, Colomb et Macron qui restreint évidemment cette loi les accès aux droits d'asile. Donc le collectif Amphiz et ses soutiens appellent à la mobilisation devant le TI à Villeurbanne, le tribunal d'instance de Villeurbanne, le lundi 14 janvier à 9h, donc lundi prochain. et pour un départ en cortège de l'Enfly-Z à 8h pour aller au tribunal. Donc soyons nombreux et nombreuses.
J'ai déjà loupé tellement de trucs dans ma vie, vous savez. La peinture, la représentation, le commerce.
Essayez la politique.
Bon, c'est trop tard, ça, la politique, pour ça. Que ça soit commencé jeune, ça, c'est comme la musique ou la prostitution. Non, vous voyez, quand on n'a pas réussi à être ce qu'on voulait être, eh ben, ce qu'il faut, c'est représenter l'image que les autres ont de vous. Voilà. Et vous comprenez, comme elle-même me prend pour Arsène Lupin, hein. Alors, si vous me faites arrêter, c'est chouette, ça. Ça a l'air d'être un accident de travail. Et comme si vous, vous mouriez au champ d'honneur.
Et pour finir ce Canu Info, j'ai trouvé aujourd'hui le plus beau titre d'article. Je l'ai beaucoup aimé et il est publié dans Lutte en Or, qui est un site d'information de la région Nord. Et je vous le dis que l'avant-garde éclairée garde ses lumières. Nous avons encore des ampoules à la maison. Voilà. Ce seront les derniers mots de ce Canu Info.
Et à la semaine prochaine.
Bonne merci soirée. De nous avoir écoutés.
De Gaulle, Pompamère, Pompidou, Pompamère, 1217 Pompamère.
Radio Canu.
De Gaulle, Pompamère, Pompidou, Pompamère, 1212 Pompamère.
Canu Info.
Et quand même, vous aurez pu noter que notre Canu Info s'est doté de nouveaux génériques et de nouvelles incises. J'espère que vous avez eu le plaisir de l'écouter. En tout cas, un gros big up à celui qui nous les a faites.
Et bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao.
Et André Young, on m'a bercé trop près des enceintes. Chers voisins, retirez vos plaintes. De la soule, des concerts, de la foule, ce mouvement m'aura greffé de son empreinte. Soyez sans crainte, le hip-hop ne vous veut pas de mal. Peut-être jugé comme une musique normale.